Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 9 mars, il est 8h30 et ce matin, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas fait de phrase pour l'accueillir en studio à la technique Corto. Salut.
Salut, salut. Bah tu m'en vois bien déçu, hein.
Ouais, non, mais...
la petite phrase d'accroche habituelle.
Et je viens de m'en apercevoir en fait, c'est complètement fou, ça arrive. Non mais promis, je me rattraperai lundi.
Et bah bonjour à tout le monde en tout cas.
Ça va mon Corto?
Ça va, comme un mercredi matin.
Au programme de cette matinale, nous sommes en plateau et je suis ravi de l'accueillir avec Françou. Bonjour.
Bonjour.
Tu es animatrice à la maison de retraite de Florac. Ensemble, on va parler de nos aînés, de comment ça s'est passé pour vous de ces deux dernières années. Bon, on va pas faire de suspense, hein. Ça n'a pas été la grande fiesta comme tout le monde, mais on parlera aussi d'avenir, des sourires, de ce que tu fais avec les résidents. Ce sera tout à l'heure, juste après l'édito. En deuxième partie d'émission, pardon, nous serons avec Antoine Tabar par téléphone. Il est secrétaire général à Arcom Toulouse, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En fait, l'Arcom, c'est la fusion entre le CSA et l'ADOPI. Avec lui, nous reviendrons sur les temps de parole des politiques en ces temps d'élection, comment ils sont calculés, qui décide, qui contrôle. Nous, en tant que radio, on a une convention avec le CSA. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est quand même notre grand patron, blague à part, il a été nommé il y a 3 ans maintenant. Il avait mis au point d'honneur à passer voir toutes les radios associatives d'Occitanie. Il est passé nous voir pour se présenter. Nous avions beaucoup apprécié la démarche. C'est donc très cool qu'il ait accepté de répondre à nos questions. Il y aura de la musique, comme d'hab, évidemment. Mais Corto, si t'es chaud, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Qui aurait cru qu'un jour je parlerai de l'Eurovision sur Radio Bartas? Mais tout arrive. Pas que je sois fan ou non de l'émission, disons juste qu'il y a quelques clichés et qu'après tout, la télé, je préfère la radio. Mais j'avoue que j'ai été surpris par un artiste à côté de qui on est passé, par une artiste, pardon, à côté de qui on est passé, la faute à pas regarder, et surtout d'un message. Cette artiste, elle s'appelle Jamala et elle chante... une super chanson qu'on écoutera juste après. Il y a 6 ans, Jamala a triomphé sur la scène de l'Eurovision. Aujourd'hui, elle est réfugiée avec ses enfants en Turquie, loin de son pays en guerre, l'Ukraine. La chanteuse Jamala a 38 ans. Elle est à la fois un symbole et une porte-parole officieuse à l'international de sa terre natale, bousculée par la guerre. Voilà ce qu'elle a déclaré sur France 2 dans une courte vidéo diffusée samedi alors que la sélection avait lieu sur la chaîne pour l'Eurovision, justement, je la cite. « Je suis très reconnaissante envers vous, envers la France, pour toute l'aide que vous nous apportez. Elle est incroyablement importante pour nous en ce moment. Merci également aux bénévoles que vous nous avez envoyés. Je souhaiterais que toute la communauté Eurovision puisse soutenir l'Ukraine, car c'est aussi déterminant pour nous. Je souhaiterais que vous entendiez l'Ukraine. » Elle a sans doute de la famille, des amis, une vie qu'elle a dû fuir. Ce qu'elle vit doit être super chaud. Perso, si la France était en guerre, que je vivais aux États-Unis pour une tierce raison, comment le vivrais-je? Bref, c'est un autre propos. Mais voilà où je veux en venir. En parlant du message de Jamala, je ne regarde pas l'Eurovision, je ne regarde pas les émissions de variété, je ne connaissais pas Jamala. Pourtant, j'ai écouté l'artiste par d'autres canaux et je l'ai entendu. Voilà pourquoi le monde de la musique, le monde du sport, le monde du cinéma, le monde de la culture en général doit faire entendre sa voix. Voilà pourquoi ces mondes dans notre monde sont importants. Il n'y a plus de frontières à la culture et se demander si Énergie c'est mieux que Bartas, si aller voir Stromae c'est moins bien qu'Orelsan, il n'y a plus d'hierarchie, si tous les médias, toutes ces personnes, peu importe la forme, le rythme, si toutes ces personnes louent la paix. Sans doute que beaucoup de personnes voudraient une culture restreinte, une culture qui vaut à un pays sa pseudo-grandeur et sa magnificence. L'annihiler, la réduire pour la contrôler, la détruire pour nous contrôler. Dites à vos enfants d'écouter Énergie, d'aller voir Stromae, Vivaldi ou Pierre Perret, de regarder l'Eurovision et mettez Bartas aussi. On n'a que le bien qu'on sait. Mais multipliez les goûts. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Mais au plus nous aurons d'artistes qui loueront la paix, qui la chanteront, qui la clameront, au plus nous serons libre. On va écouter Jamala, la chanson s'appelle 1944, ça me prendrait 3 heures de vous expliquer la chanson, je mets le lien de l'explication sur notre site, allez voir, c'est tragique, allez voir, c'est magique.
They kill you all and say, we're not guilty, not guilty.
is your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls.
Jamala, 1944, de retour en plateau avec Françou. Tu es animatrice à la maison de retraite de Florac. Ça fait combien de temps maintenant ?
Alors, j'y travaille depuis 2001 et animatrice depuis 2016.
En tout cas, ouais, depuis 20 ans, tu faisais quoi avant d'être animatrice ?
Aide-soignante.
Aide-soignante. Alors, bah, qu'on comprenne, c'est quoi ton parcours pour en être là ? Sait-on jamais des fois que des jeunes voudraient avoir ton job ?
Ah ben bah ouais, c'est un très beau job, hein. Il apporte beaucoup.
Tu m'étonnes.
Eh bien, écoute, j'ai été employée technique de collectivité à la clinique Bonnefond pendant longtemps. Puis, je suis venue travailler sur Florac où j'ai eu la chance de passer ma formation d'aide-soignante. Et ensuite, quand le poste d'animateur s'est libéré, je l'ai demandé, je l'ai eu. Et je suis partie sur Béziers pour un an pour passer le diplôme d'animatrice sociale. Voilà.
Je me souviens bien de cette année à Béziers. Ouais. On a la chance de faire la radio des aînés tous les deux. Il y a combien de résidents à la maison de retraite ? Plus ou moins ?
Alors, normalement 55.
Pourquoi normalement ?
Normalement, parce qu'on a encore des places. On n'a pas rempli depuis le Covid. Mmh. Et donc, on est à 33 ou 34. Ouais.
On parlait tout à l'heure de la situation que vous avez vécue pendant 2 ans. Pour faire la radio des aînés, comme je te disais, venir vous voir, il y a quand même entre vous une réelle complicité. Beaucoup d'amour, je dirais même.
D'ailleurs, je tiens à remercier Radio Bartas.
Ah.
Parce que depuis mars 2016, que moi j'ai repris l'animation, mmh. On bosse ensemble, mmh. Une à deux fois par mois. On a été, pendant plusieurs mois, on n'a pas pu se voir,
mmh.
C'est vrai. À cause du Covid. Et ça nous a beaucoup manqué. Mmh. Et les résidents, ils sont très attachés à toi, Ben, comme ils étaient aussi aux autres, mais mmh. Peut-être plus particulièrement à toi. Et ils demandaient toujours tes nouvelles. Et quand ils ont su que tu revenais, ils étaient super contents.
Ouais, et puis là, on a dû s'arrêter encore un petit temps et on recommence la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
c'est vrai qu'on va en parler, hein. On a galéré à se voir ces 2 dernières années. Et c'est vrai que ça va aller mieux maintenant, mais votre quotidien, ça a été vraiment très dur. Raconte-nous un peu pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte.
Mais le plus difficile, c'est quand ils étaient privés de leur famille et de leurs visites. Heureusement, grâce au progrès, il y avait les visios. Mais bon, moi, je me rappelle d'avoir fait des journées où je n'avais pas une famille ou un résident qui ne pleure pas, quoi, mmh. Pendant la visio. C'était très compliqué, ouais.
Et les
copains et les copines qui partaient, quoi.
Ouais, ça a dû être tragique. Et puis, pareil, quand on s'était vu en septembre, il y en a vraiment qui sont morts seuls.
Le problème, c'est quand ils se sont retrouvés à Mende, où les familles ne pouvaient pas y aller. Et ouais. Que, ouais, ça a été... partout, ça a été pareil, mais ça a été vraiment très tragique. Et maintenant, qu'on parle de la guerre de l'Ukraine, pour eux, ça les replonge aussi dans de très mauvais souvenirs. Ils ont peur.
Tu les sens attachés, enfin pas attachés, mais je veux dire rattachés à une espèce de passé qu'ils ont vécu ou c'est
oui,
plus l'avenir
qui doit... Déjà au passé qu'ils ont vécu, puisqu'ils ont connu, eux, et de ce qui va arriver. Parce qu'ils te disent ça va arriver en France.
Ouais, ça ne va pas être facile. Mais toi, comment tu arrives à les sortir un peu de ce marasme? Qu'est-ce que tu fais avec eux?
Plein de choses. Déjà, ils adorent sortir. Donc, je les sors le maximum. On va ramasser des olives dans le Gard. On va participer à la charcuterie pour faire quand on fait un cochon. On va écouter le brame du cerf sur les Goales en plein hiver, au mois d'octobre. visiter des fermes, plein de choses. Ils adorent sortir. Après, on fait beaucoup de lectures sur des ouvrages de ceux qu'ils ont vécu. Ils adorent ça. Des lotos. Tous les 15 jours, on fait un loto. J'essaye de faire venir des intervenants. Et voilà, quoi. J'essaye de les inclure dans la vie sociale au maximum parce que c'est ce qui leur manque le plus.
En tout cas, pour venir, j'avoue qu'ils te portent une amitié et un amour qui est absolument incroyable. Oh, France. C'est génial.
Tu sais, moi, j'ai une place particulière dans mon métier parce que je leur apporte que du... Je les tire toujours vers le haut. Je n'ai contraint à rien. Ils ont envie de venir, ils viennent. Ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. La démarche première de mon travail, c'est de leur demander qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous. Et à partir de là, je ne les contrarie jamais, moi. Quand j'étais aide-soignante, j'avais pareil, mais tu es aide-soignante, eh bien, tu es obligée de leur dire, eh bien, il faut aller, on va faire la toilette. Allez, c'est l'heure du repas. Allez, il faut se lever. Tu vois. Moi, je n'ai pas ce rôle-là.
Ah là, c'est que du sourire. C'est peut-être pour ça
qu'il
a voulu
changer.
C'est que
du sourire, changer, mais hein. Tu sais, c'est quand même des fois... Tu as plusieurs casquettes, hein. Parce que tu sais que j'en ai un paquet qui viennent me voir dans mon bureau et qui me confient plein de choses qu'ils n'iront pas dire à une soignante, à une infirmière ou même à leur famille.
C'est ça, on a trop tendance à oublier, c'est pour ça que c'est important d'en parler, je trouve, c'est que c'est une maison de retraite, c'est pas la mort, quoi, c'est sa vie.
Bien sûr.
Il y a de la, enfin, il y a, quand on dit de l'amour, mais du vrai, je veux dire, il y a des histoires d'amour entre résidents ou pas?
Ça peut arriver. Il y en a eu, bien sûr. Il y en a eu.
Et justement, ils peuvent déprimer, ils peuvent venir te voir en disant j'ai un problème avec telle personne. Enfin, c'est sa vie, quoi.
Ah oui.
Allez faire un tour, auditeur, auditrice. Enfin, quand ce sera possible, parce que là, je suppose que c'est encore.
Si
un peu...
les visites sont autorisées les après-midi, deux dans les chambres ou alors à l'extérieur, avec port de masque et passe obligatoire.
T'as forcément vu le scandale avec ces groupes privés qui font n'importe quoi dans la résidence.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors. Ben écoute, la première pensée pour moi que j'ai eue, ça a été pour les résidents qui ont subi ce genre de choses, ça, c'est terrible. Et ensuite, j'ai pensé à tout le personnel qui, comme beaucoup, s'en occupe avec amour et qui se retrouve mêlé à tout ça et qui sont mis dans le même sac. Et ça je me dis, moi, ça m'arriverait, je serais effondrée, quoi. Qu'on puisse avoir une image... c'est pas possible.
C'est ça,
et que cette maltraitance existe, et c'est terrible. C'est terrible.
Mais pas mettre tout le monde dans le même panier, en tout cas.
C'est ça.
Les personnes qui travaillent dans le médico-social, y en a beaucoup. Il faut être passionné pour faire ce boulot.
Bien sûr. Si tu n'aimes pas les personnes âgées, ne viennent pas, quoi.
Si tu pouvais changer quelque chose dans la maison de retraite de Florac, ce serait quoi?
Changer quelque chose, avoir un car plus grand et un chauffeur. Pour pouvoir en sortir plus, c'est pas. Parce que j'ai qu'un car où je peux prendre que 8 résidents. Donc, et si je les écoute. Donc, déjà, ce serait ça.
Bah écoute, on parle à ta direction. On parlait de ta formation tout à l'heure et des jeunes. D'ailleurs, vous recherchez 2 services civiques pour travailler avec toi.
Ouais.
Donc, pour faire de l'animation.
Voilà.
Pas besoin de diplôme, rien.
Non, un jeune qui, bien sûr, aime les personnes âgées parce que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est primordial. pas venir là parce qu'il sait pas quoi faire. Quoi. Vraiment pour qu'il a envie d'accompagner une personne âgée, la sortir, lui amener le sourire et le bonheur. Non, c'est de 16 à, je sais plus, 25, je crois.
Eh ben, le message est passé.
Donc, avec plaisir, on le reçoit. Mais il faut dire que pour le moment, pas grande demande.
Mmh. C'est compliqué. On en cherche un aussi, nous. C'est pareil, on galère un peu.
C'est vrai.
Ouais. Aux jeunesses. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui commence dans le médico-social ?
Alors, pas dans le médico-social, dans l'animation.
Dans l'animation, c'est vrai.
Dans l'animation, quel conseil ? Ben déjà, apprendre à bien connaître son public. C'est la base de tout. Mais ne pas hésiter à aller rencontrer la personne, rester longtemps dans sa chambre, lui parler de son passé, de ce qu'il a vécu, de sa famille. C'est la base du métier, ça.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton boulot ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas ?
Les décès.
Et à l'inverse, pour finir sur une jolie note, qu'est-ce que tu préfères dans ton boulot ?
Qu'est-ce que je préfère ? Leur sourire, quand ils partent d'une animation et qu'ils sont super heureux.
Si vous êtes jeune, que vous avez moins de 26 ans, allez bosser avec François. Je vous promets que vous avez passé des excellents moments, n'est-ce pas ?
Je vous attends avec grand plaisir, vous ne le regretterez pas.
Merci beaucoup François d'avoir accepté notre
invitation. C'est moi qui vous remercie.
Tu es animatrice à la maison de retraite de Florac et j'ai vu et entendu l'amour que te portent tes résidents. C'est juste trop génial et hâte de revenir la semaine prochaine vous voir.
Avec plaisir.
Dans un instant, on se retrouve avec Antoine Tabar pour une interview téléphonique. On écoute d'abord I Am Petit Frère.
C'est pourquoi ils s'obstinent à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant.
juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Nous sommes par téléphone avec monsieur Antoine Tabar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général Arcom Toulouse. L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Arcom est né de la fusion entre le CSA et l'Adopi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du CSA et de l'Adopi, désormais Arcom ?
Alors, donc les missions du CSA tout d'abord, ce sont les missions traditionnelles telles qu'on les connaît, c'est-à-dire globalement ce qu'on peut appeler la régulation du secteur audiovisuel. C'est-à-dire d'une part veiller à ce que le paysage audiovisuel soit le plus pluraliste possible, le paysage audiovisuel en termes de radio et de télévision, donc c'est-à-dire la sélection des radios qui auront le droit d'émettre sur la bande FM et les télévisions qui émettront sur la télévision analogique et numérique. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est globalement d'être un régulateur d'un secteur audiovisuel qui est un secteur économique, qui est un secteur social sur lequel nous avons la vision la plus globale possible pour accompagner les acteurs de ce secteur dans les mutations qui sont les leurs, notamment en ce moment. Donc c'est à la fois une mission d'autorisation des services, c'est une mission de contrôle aussi des obligations que sont celles que l'on fixe aux radios et aux télévisions, et c'est globalement l'appréhension d'un secteur économique qui est le plus large possible, sur lequel il y a un certain nombre d'obligations administratives, etc., sur lesquelles on accompagne les opérateurs. La Adopi, de son côté, est l'autorité que l'on connaissait bien aussi pour sa mission de lutte contre le piratage, notamment contre le téléchargement illégal. Donc c'est ça qui avait fait, on va dire, sa réputation la plus visible. Pour autant, c'est une autorité donc désormais fusionnée avec le CSA dans l'Arcom, comme vous l'avez dit, qui a pour mission globalement de réguler le secteur du téléchargement et de l'offre légale. Donc c'est à la fois une mission effectivement de contrôle et de répression, évidemment, mais c'est aussi peut-être surtout une mission de sensibilisation du public, notamment des plus jeunes publics, à justement l'enjeu d'une consommation de contenus audiovisuels qui sont des contenus légaux, avec un certain nombre d'enjeux financiers, par exemple, pour les auteurs, qui sont évidemment très, très importants à préserver.
Alors désormais Arcom, quand et pourquoi est-ce que la fusion des deux organismes a-t-elle été décidée ?
Alors, elle a été décidée dans le courant de l'année 2021. C'est une loi qui a été discutée durant l'année 2021, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc depuis le 1er janvier 2022, l'Arcom existe. Elle a été décidée par le législateur parce que l'idée était de moderniser la régulation de ce secteur audiovisuel en le faisant rentrer plus globalement dans l'ère du numérique et dans l'ère d'un secteur audiovisuel qui n'est plus évidemment le même qu'il y a 40 ans. La loi initiale qui présidait à la communication audiovisuelle et au CSA, initialement, elle date de 1986. Évidemment, il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis par ce secteur. On est évidemment dans un monde qui n'est plus du tout le même. Et donc, il s'agissait d'essayer d'appréhender beaucoup plus complètement, beaucoup plus globalement ce secteur, en y faisant rentrer complètement la question du numérique. avec un certain nombre de compétences supplémentaires qui ont été attribuées à l'ARCOM pour justement faire rentrer dans son champ d'activité des opérateurs et des acteurs qui n'étaient jusque-là que très peu appréhendés. Ce sont notamment les grands acteurs du numérique et de l'Internet, sur lesquels évidemment on ne transpose pas nos méthodes habituelles que l'on a avec les radios et les télévisions, mais que l'on fait rentrer globalement dans ce secteur avec des nouvelles méthodes de régulation, voilà, pour essayer d'avoir un régulateur qui colle le plus possible avec son époque, avec son temps, et qui appréhende complètement tout le secteur qui est en jeu.
Ça demande nécessairement un temps d'adaptation. Est-ce qu'il y a encore des points à éclairer, des choses sur lesquelles vous devez vous mettre d'accord dans le fonctionnement ?
Alors oui, évidemment, c'est quand on fusionne deux autorités telles que l'était qu'était le CSA et celle de la Hadopi, forcément, c'est un temps d'adaptation qu'il nous faut pour aussi apprendre à travailler ensemble. Ce ne sont pas seulement des missions et des compétences, c'est aussi un certain nombre de personnes et beaucoup de personnes qui travaillent dans ces deux autorités. Donc il faut un certain temps. Pour autant, c'est un travail qu'on a depuis longtemps commencé à faire dès l'année 2021, puisque ce projet de loi a mûri tout au long de l'année 2021, mais on avait travaillé à tout ça bien en amont. Donc les choses, l'ARCOM est complètement efficace aujourd'hui et complètement active sur l'ensemble de ses missions, mais nécessairement, quand il s'agit de rénover ses méthodes et de rénover ses structures, il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette parfaitement en musique, mais ce n'est qu'une question de très peu de temps.
Un thème que je voulais aborder avec vous, on arrive à l'élection présidentielle, évidemment tout le monde le sait, ça y est, les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel et l'ARCOM a en charge de vérifier le temps de parole des candidats dans les médias pour l'équité, pour la démocratie, mais concrètement, beaucoup de gens se demandent comment il se calcule.
Alors déjà peut-être une petite précision avant tout, c'est que certes l'ARCOM a pour mission, et on va détailler ça ensemble, ces questions de temps de parole, mais globalement la mission de l'ARCOM par rapport à la représentation politique, c'est la question de la garantie du pluralisme politique. C'est ça vraiment qui fait le fondement de nos missions en la matière, c'est l'idée que c'est de garantir dans le secteur audiovisuel et dans les médias audiovisuels globalement un pluralisme politique qui est la garantie en réalité de l'expression de la liberté d'opinion et le fondement de la démocratie. Donc c'est vraiment pour cette mission-là que l'ARCOM exerce ses missions, c'est pour veiller à ce que chacun des courants politiques, chacun des courants d'opinion qui peuvent exister dans notre pays, soit exprimé autant qu'il le faut pour que les citoyens puissent exercer réellement leur rôle de citoyen et exercer leur liberté d'opinion.
Précision importante, c'est vrai.
Voilà, ce ne sont pas des temps de parole que l'on calcule juste pour surveiller des choses. C'est vraiment la garantie de la démocratie. Donc ça passe effectivement par un certain nombre d'actions, mais notamment la question des temps de parole. Alors comment est-ce qu'on les calcule ? Tout simplement, ce sont les radios et les télévisions elles-mêmes qui le calculent initialement. C'est-à-dire que la méthode que l'on a en temps électoral et en temps normal, hors période électorale. On pourra revenir sur la distinction, mais c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire que les calculs initiaux sont faits par les radios et les télévisions qui nous communiquent à intervalles très réguliers les temps de parole qu'elles accordent à tel courant politique, telle personnalité politique. Ces éléments-là, nous les contrôlons évidemment régulièrement, mais ce sont avant tout les radios et les télévisions qui calculent le temps de parole qu'elles consacrent à tel courant politique.
En fonction de leur audimat, quelque part ?
Alors, en fait, l'idée, c'est que la réglementation globale des temps de parole repose sur le principe, sauf dans des cas notamment très proches des élections où c'est le principe de légalité qui prévaut, mais sinon c'est le principe d'équité. Le principe d'équité, c'est quoi ? C'est de donner à chacun des courants politiques une représentativité dans les médias qui corresponde à sa représentativité. Et donc cette représentativité, il faut évidemment l'estimer, il faut estimer à quelle personnalité politique ou à quel courant politique un temps plus important doit être donné, et ça on se fonde sur tout un faisceau de critères qu'on met en œuvre depuis bien longtemps, qui sont tout à fait habituels chez nous, et qui sont des critères qui cumulativement nous permettent d'estimer le temps que un courant d'opinion doit pouvoir avoir à l'antenne. Donc ça repose sur pas mal de choses, mais ce sont par exemple les résultats d'un courant politique aux précédentes élections, qui sont un bon indice de sa représentativité. C'est aussi les éventuels sondages que l'on prend en compte, qui ne sont pas l'alpha et l'oméga de nos critères, mais qui sont un des éléments que l'on prend en compte. C'est aussi, en période électorale, la capacité de ce courant politique à animer le débat. Est-il très présent? A-t-il des propositions? Fait-il vivre réellement le débat en période électorale? Ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt absent et plutôt passif? Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, mis bout à bout, nous permettent d'estimer le temps équitable que doit recevoir chacun des courants politiques.
Alors l'exécutif, si j'ai bien compris, a un tiers du temps de parole qui lui est alloué pour qu'il défende ou explique les décisions qu'il prend. Comment ça se passe maintenant que le président de la République est candidat à sa réélection? C'est le même principe?
Alors, il y a effectivement deux systèmes. Le premier, c'est le système, parce que les temps de parole, c'est pas seulement pendant les élections. La question du temps d'antenne et du temps de parole, c'est une réglementation qu'on applique tout au long de l'année, même hors période électorale. Donc, en dehors des périodes électorales lors desquelles il y a des élections présidentielles, législatives ou autres, il y a une répartition du temps de parole qui réserve un temps d'antenne au pouvoir exécutif d'un tiers du temps total. Donc là-dedans, c'est le pouvoir exécutif globalement, le président de la République, ses collaborateurs, les membres du gouvernement qui expliquent leur mission en tant que pouvoir exécutif. Le reste du temps total est réparti selon le principe d'équité entre les partis, les mouvements politiques. Ça, c'est en dehors du temps électoral. Désormais, on est effectivement dans une période d'élection. Donc, on scinde, en ce qui concerne le président de la République, ce que vous évoquiez il y a un instant, désormais, il est effectivement officiellement candidat. Et donc, on fait l'exercice, nous, de distinguer entre ce qui relève de ses prises de parole en tant que président de la République et ce qui relève de ses prises de parole en tant que candidat. Celles qui relèvent de ses prises de parole en tant que candidat seront décomptées, seront donc évaluées et seront éventuellement compensées par des prises de parole d'autres courants politiques. En ce qui concerne ses expressions en tant que président de la République, et évidemment les circonstances internationales en ce moment l'amènent à beaucoup s'exprimer sur la question, ça on le met de côté, il s'exprime là en tant que président de la République, et on fait cet exercice de distinction avec les radios et les télévisions, comme je vous le disais, qui sont les premières à faire ce travail-là.
Donc justement, elles n'ont pas matière à, entre guillemets, mentir sur les chiffres qu'elles vous fournissent, et si elles ne le font pas, ou alors, est-ce que les médias justement, qui ne respecteraient pas cette équité, cette égalité, pourraient s'exposer à des sanctions?
Oui, tout à fait. Il y a des sanctions qui sont possibles. Fort heureusement, on n'est pas amené à prendre des sanctions très souvent, parce que les médias globalement respectent très très largement cette obligation. Pour autant, on a à notre disposition, si besoin était, un certain nombre de possibilités, notamment, et c'est dans ce cadre-là que les choses se règlent la majeure partie du temps, des courriers que l'on peut adresser, des mises en garde, des mises en demeure que l'on peut adresser aux chaînes, notamment pour les invités, parce que c'est évidemment des temps de parole sur le temps long, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines que ces temps d'expression, et donc on peut, au moment où on a le sentiment que les équilibres ne sont pas respectés, et donc d'inviter les radios, les télévisions, telle radio, telle télévision, à rétablir les équilibres pour que à la fin d'une période, les équilibres soient respectés. Mmh. Et globalement, ces choses-là se passent très bien.
Mmh. Pour finir, Monsieur Tabar, on va pas aborder le conflit en Ukraine, hein. Néanmoins, des médias russes ont été interdits en Europe. La question, c'est de savoir que c'est vous qui décidez, donc Arcom qui décide, hein, qui a le droit ou non d'émettre. Mais si un média fait rien d'illégal aux yeux du droit français, est-ce qu'il est possible pour l'Arcom de l'interdire? Puis si on parle d'éthique, hein, plus pour ces médias.
Alors, c'est des questions évidemment très très sensibles globalement. De toute façon, les médias ne sont pas forcément tous autorisés par l'Arcom, puisqu'ils ne sont autorisés qu'à partir du moment, c'est-à-dire qu'ils font l'objet d'une autorisation et d'une sélection qu'à partir du moment où ce sont des médias qui émettent sur le RT1. Donc la TNT par exemple, ou la radio analogique et numérique. Sinon, ce sont des médias effectivement qui sont conventionnés par l'Arcom. On passe avec eux des conventions qui fixent un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles des obligations déontologiques. Là, en l'occurrence, on est dans un cas un petit peu spécifique, puisque la décision à laquelle vous faites référence n'est pas une décision de l'Arcom, puisque c'est une décision de l'Union européenne qui, de ses propres prérogatives, a établi un certain nombre de sanctions qui visaient à empêcher la diffusion et la distribution de ces médias, sans qu'ils soient visés eux-mêmes d'ailleurs directement, mais ce sont leurs modalités de distribution et de diffusion qui ont été interdites. L'Arcom, de ce point de vue-là, on a pris acte, on a communiqué à ce sujet, on a pris acte de ces sanctions qui ne sont pas des sanctions qui viennent de nous, mais des prérogatives de l'Union européenne, qui a établi ces sanctions-là, et l'Arcom en a pris acte et en a tiré les conséquences.
C'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Monsieur Tabar.
Merci beaucoup, monsieur. À bientôt.
À bientôt. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ARCOM, né de la fusion du CSA et de la DOPI, pardon. Bonne journée à vous. Au revoir.
Bonne journée.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale, on se retrouve lundi, et si vous ne le savez pas encore, jeudi à 18h, rendez-vous à la Jeunette Verte pour une conférence du Parc National des Cévennes et du Bureau de Recherche Géologique et Minière. Ils ont lancé en 2016 une grande étude hydrogéologique sur le Cosmé-Jean. Entouré de plusieurs spécialistes, bah, c'est l'heure de présenter le rapport final en public. Venez, ça va être passionnant. Il faut s'inscrire sur le site du Parc National des Cévennes. Je mets le lien sur notre site dans un instant. Et c'est une soirée dont on est partenaire et qu'on animera. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Corto.
Et de rien, bonne journée à tous.
Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se quitte avec Buena Vista Social Club. La Bahia Mesa. Ciao.
De tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones, sí, lleva en su alma la paz. Tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones, sí. Ella es sencilla,
ella sencilla,
le brinda al hombre,
le brinda al hombre,
virtudes todas,
virtudes todas,
y el corazón,
y el corazón,
pero si siente,
pero si siente,
de la patria el grito,
de la patria el grito,
pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión. Ese es su lema.